Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Des sciences, des arts, de la création, trois ingrédients pour une quatrième édition. Nos Bibin vous font découvrir aujourd'hui un festival très original et très riche, Ressac. Ben oui, à Brest, il y a la mer et une université, l'UBO, qui a créé un festival de recherche en sciences, arts et création, c'est Ressac. La quatrième édition a lieu du 10 au 14 mars dans différents endroits de la ville. À la fac, bien sûr, au Macorlan, au plateau des Capucins. L'idée, c'est de faire vibrer le public le plus large possible, de lui faire toucher les sciences de manière sensible et émotionnelle grâce au prisme des arts. Car oui, la science, c'est beau. Erin Labroa est allée rencontrer deux des chevilles ouvrières de ce festival, Étienne Hendrix, qui est co-directeur du festival, vice-président culture, sciences et sociétés de l'UBO, enseignant-chercheur en psychoacoustique et compositeur, et Maëlle Ledu, qui est co-directrice du festival et professeure en maïeutique. Elle est devenue aussi artiste en spectacle. Ils nous présentent tous les deux les quatre thèmes de cette quatrième édition de Ressac.
Alors, globalement, c'est un festival sur les transitions qu'on a souhaité décliner de quatre façons différentes. En ciblant des aspects très précis. On va explorer la transition écologique à travers tout un axe sur le pétrole, que je mentionnais tout à l'heure. Donc, essayer de mieux comprendre notre attachement au pétrole, comment le pétrole est omniprésent dans nos modes de vie jusqu'aux vêtements qu'on porte sur nous, et comment mieux comprendre cet attachement pour pouvoir mieux en sortir dans le futur. On va aussi explorer la transition numérique avec un axe sur les données, sur la data, qui permet de faire le lien avec le pétrole, puisqu'on dit souvent que la data, c'est le nouvel or noir du 21e siècle. Un axe sur la transition sociétale, un axe qui s'appelle « Gloire et infortune du vagin », qui est porté par Maille. Et puis un axe plus abstrait sur les mathématiques. On va explorer la transition. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le passage d'un état A à un état B qui se fait de manière lente et progressive. Et donc c'est ça qu'on va explorer dans cet axe, c'est les déformations lentes et progressives, continues, de concepts ou d'objets mathématiques.
Comment est-ce que vous les avez choisis? Pourquoi cela? Pourquoi nommer comme ça? On aurait pu, imaginer travailler sur pétrole autrement, par exemple.
L'axe sur les datas, l'axe sur le pétrole aussi, ça rentre en résonance avec des lignes de force qui traversent l'université en ce moment. On est en train de déployer notre schéma directeur développement durable. Et puis le numérique, en ce moment, à l'université de Brest, on lit dans la presse aussi, il y a un enjeu autour du big data, de l'IA, qui est très important, donc ça nous paraissait essentiel aussi d'aborder cette thématique. L'axe sur les mathématiques, c'est une rencontre avec un écrivain, Yann Brunel, qui a publié chez Gallimard un roman qui s'appelle Homéomorphe, qui est une biographie fictive d'un mathématicien russe, et qui a pour originalité de mêler à la fois langage mathématique et langage romanesque. Donc c'est vraiment un ovni poétique d'une très très beau comme roman, et donc ça m'a vraiment donné envie de travailler sur les mathématiques. En plus, au même moment, j'ai rencontré une artiste plasticienne, Gabrielle Hervette, qui est une artiste qui vit en Bretagne et qui est très inspirée par les mathématiques également. Donc c'est comme ça que les choses se sont construites et qu'on en est arrivé à proposer à Gabrielle Hervette une résidence au sein de notre laboratoire de mathématiques, le LMBA. Donc elle a passé plusieurs semaines dans le laboratoire avec les chercheuses et chercheurs en maths. Et donc elle en a tiré une exposition d'art contemporain, des sculptures qui seront exposées dans notre salle d'exposition, la salle des abords, pendant le festival.
Moi je trouve ça fou qu'il y ait des chercheurs en maths. Qu'est-ce qu'on cherche en maths ?
On cherche des nouveaux théorèmes, on cherche des nouvelles choses à démontrer. Parfois, on n'a pas d'utilité tout de suite, c'est-à-dire qu'on découvre quelque chose, on découvre des propriétés mathématiques. Ça n'a pas d'utilité tout de suite, mais peut-être que dans 10, 20, 30, 40 ans, ça va permettre de faire une découverte scientifique qui aura une application concrète dans notre quotidien.
Vous l'aurez remarqué, ce festival Ressac a lieu juste après la Journée internationale des droits des femmes. Et justement, elles seront vraiment à l'honneur d'un des quatre thèmes, Gloire et infortune du vagin, porté par Maëlle Leduc et, je vous le rappelle, professeure de maïeutique, la science de l'accouchement.
Quand Étienne m'a sollicité, en me donnant donc une carte blanche pour joindre art, sciences sociales et santé dans une thématique globale, j'ai immédiatement pensé à cette thématique. En fait, voilà, bon, moi, je trouve que je suis sage-femme de formation et donc enseignante en maïeutique à l'université. Donc, forcément, la thématique de la santé des femmes, de la visibilité ou de l'invisibilité du corps des femmes était quelque chose qui était très important pour moi. Il se trouve qu'en plus, cette thématique permettait de lier des spécificités chez des chercheurs et des chercheuses de l'UBO et au-delà, et de l'UBS. Par exemple, le laboratoire d'études et de recherche en sociologie, le LABERS, a un axe sur le genre et de nombreux chercheurs et chercheuses travaillent sur donc, la problématique du genre, sur les violences faites aux femmes, sur l'égalité femmes-hommes, égalité femmes-hommes étant également un des axes travaillés au sein même de la direction de l'université. Une chercheuse également en microbiologie qui a un laboratoire de pointe dans la recherche sur le microbiote et en particulier le microbiote vaginal permettait également de faire le lien en alliant donc les sciences humaines et les sciences sociales à des sciences fondamentales, à la biologie, à la microbiologie. Il se trouve qu'en plus, donc, au niveau des étudiantes et des étudiants, eh bien, c'est une thématique qui reste importante, à la fois pour toutes les étudiantes et étudiants en santé, toutes disciplines confondues, mais on a également des sections, alors sciences humaines et sociales, bien entendu, et également en sciences sanitaires et sociales. Et donc, ça permettait de trouver finalement un lien, une cohérence sur cette problématique qui en plus correspond à une préoccupation sociale très très importante. Le vagin est pris à titre à la fois symbolique et à la fois à titre organique, mais évidemment, c'est une donnée très 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 symbolique que de choisir ça. Pourquoi ? Parce que le vagin, donc, c'est une partie anatomique assez emblématique féminine, qui est également un passage, hein, puisque c'est le premier passage que nous utilisons en tant qu'humain pour venir au monde. On est également donc sur une invisibilisation totale du mot. D'accord, le mot vagin, c'est un mot qui est très très peu utilisé dans le monde social, dans les médias. Ben, je pense qu'il y a un moment, il faut assumer jusqu'au bout hein, cette notion de vouloir sortir les problématiques de santé des femmes et les problématiques sociétales, en fait, de la place des femmes dans la société. Et ça passe évidemment par un affichage public. Et donc, il y a beaucoup de performances ou beaucoup d'œuvres pendant ce festival qui vont permettre cet affichage public. On a par exemple une œuvre collective, Anatomie d'une lutte, tricot et féminisme. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel, donc une chercheuse de l'université qui a fait un appel, alors à nouveau au niveau européen, dans la communauté CIU. Et en fait, l'idée est de faire un appel pour tricoter et faire au crochet des clitoris. Et donc, nous allons avoir des modélisations de clitoris qui viennent de Pologne, du Portugal, de Norvège et ici même de Bretagne. Et il y a eu également un appel au grand public, c'est-à-dire que, on voit bien, on reçoit régulièrement, mais également de personnes qui se sont du grand public, qui sont ni étudiantes ni étudiants et qui ne sont pas universitaires non plus, mais qui sont rentrées dans le jeu de cette œuvre collective et on reçoit de différentes régions de France des clitoris qui vont finalement à terme faire une œuvre collective monumentale qui va lier les clitoris entre eux. Là à nouveau c'est une manière ludique de faire connaître cet organe qui est finalement sortie de l'ombre extrêmement récemment. Et c'est vraiment une des missions, de désenclaver, de sortir de l'invisibilité ces problématiques de statut, de place des femmes dans le monde public. Mais là, c'est une manière esthétique, ludique, participative, joyeuse aussi, d'aborder cette problématique qui, au niveau de la société, il faut bien le dire, et c'est bien normal, puisque ce sont des préoccupations majeures, l'entrée est souvent faite par des drames, par tout ce qui est de l'ordre des violences faites aux femmes, qui est malheureusement une réalité très concrète de la société. Et là, disons, ça permet de mettre en lumière ce sujet, de mettre en lumière tout ce qui est fait pour sortir de cet enclavement social, mais par le beau, par le rire, par le partage. Et ça va donner, j'espère, un nouveau souffle à cette lutte.
La Maison des Femmes, bonjour.
Alors, c'est Amina, c'est ça ?
C'est un espace pour elle, pour qu'elle puisse penser à autre chose.
Et là, on donne tout ! 3, 2, 1 !
Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme.
Et elles font quoi, du coup, les patientes, sinon on ferme ?
Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi.
Mon mari est quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer.
Putain, mais si nous, on peut pas être là pour celles qui ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi, là, les statistiques, là, tout ce bordel, là ?
Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service.
Oh, moi, tu sais, ça me dérange pas, les oufs.
Bah évidemment, c'est ton fond de commerce.
Parmi les rendez-vous, il y a cette projection du film La Maison des Femmes de Mélissa Godet au cinéma Les Studios le 10 mars à 20h30. Et c'est gratuit.
J'ai envie de mettre l'accent également sur la conférence sur le microbiote vaginal, une conférence croquée
Maïle Du.
Qui va avoir lieu donc le mardi sur le site santé, dans un amphithéâtre. Donc Geneviève Herry-Arnaud, qui est chercheure en microbiologie et spécialiste du microbiote, va faire une conférence, mais vraiment adressée au grand public, pour nous partager sa passion pour les bactéries et pour le microbiote. Alors là, en l'occurrence, le microbiote vaginal, mais c'est une thématique extrêmement actuelle, puisqu'on parle aussi beaucoup du microbiote intestinal, on parle beaucoup du microbiote pulmonaire. Donc, une conférence grand public, et c'est vraiment très, très intéressant, dans une vulgarisation, mais à la fois vraiment très fine, et qui nous apprend énormément de choses. Et cette conférence est croquée par une artiste, une illustratrice, qui est d'ailleurs, qui a une double casquette, puisqu'elle est également chercheure en chimie. Et cette conférence va être en plus traduite en direct, par une interprète en langue des signes français. Donc une approche grand public d'un sujet scientifique qui va être drôle, qui va être esthétique également par les dessins et accessible à toutes et tous.
Le Festival Ressac propose également des formes sonores d'art mêlées de sciences. Par exemple, des créations sonores présentées pendant les 4 jours à la salle du Clous. Irène Maupin, qui est enseignante-chercheuse en acoustique sous-marine à l'ENSTA et au LabStick, et les étudiantes et étudiants en hydrographie et robotique de l'ENSTA, une école d'ingénieurs, ont réalisé Sonarlen, qui analyse le paysage sonore du lac de Guerlédan à Mur de Bretagne, une création sonore composée à partir d'enregistrements de terrain qui est associée à une cartographie des paysages sonores du lac. C'est aussi pour sensibiliser à la pollution sonore générée par l'utilisation grandissante des moteurs essence qui a un impact sur les écosystèmes aquatiques des lacs et des rivières. Irène Maupin, toujours et toujours à la salle du Clous, présente aussi pendant le festival Batisound, réalisé cette fois avec Tania Cortés-Becerra, qui est une artiste multimédiaire médias, le collectif Oreilles Indiscrètes, Noémie Favennec-Brun, qui est compositrice, performeuse, doctorante en musicologie, Benjamin Favennec, sound designer, et l'ensemble Sillage. Les fonds marins sont cartographiés grâce à des sondeurs multifaisceaux qui mesurent la profondeur pour créer des cartes bathymétriques. Et ces données, massives et généralement archivées, ont servi là de base à la création sonore qui s'appelle donc Batisound. Et puis toujours autour des données, il y aura un concert électro et IA. Le duo Cellular One, vous entendez la captation d'une de leurs performances, rythmer cette émission. Eh bien c'est Fabrice Abili qui est musicien et Nicolas Farrugia qui est enseignant-chercheur en neurosciences cognitives et en intelligence artificielle. Et Vincent Choqueuse qui est enseignant-chercheur en traitement du signal a participé aussi à ce qu'ils vont vous proposer pour Ressac. Un concert où la musique se crée toute seule ou presque, en direct sous nos yeux, des algorithmes informatiques qui jouent avec le hasard pour composer des rythmes et des mélodies qui ne se répètent donc jamais, entre chaos et harmonie, à partir aussi des poèmes de Jocelyn Bonnerave, de l'école d'ingénieurs Lénib. Le système improvise donc et crée des morceaux uniques à chaque instant, et ça, ce concert, c'est à suivre le 12 mars à 22h au plateau des Capucins.
On va avoir une super exposition à la Maison de la Fontaine, qui est donc un lieu d'exposition qui appartient à la ville de Brest, qui se trouve à Recouvrance. Quatre artistes qui ont mis le pétrole au cœur de leur travail de recherche artistique.
Étienne Hendrix.
Donc un photographe, Peter Ian Campbell, photographe écossais, qui prend des photos absolument sublime, donc c'est-à-dire à la fois belle et tragique, de plateformes pétrolières en mer du Nord, dans la brume. C'est des photos qui sont très intrigantes. Justine Maljac et Thibaut Honoré, donc, qui eux vont nous proposer des sculptures pareil autour du pétrole, avec notamment une espèce de jardin zen japonais où ils ont fait pousser une plante qui sent le pétrole, en fait, qui dégage une odeur de pétrole. C'est une œuvre garden, voilà, qui sera présentée dans cette exposition. Et puis aussi un travail très intéressant de Léna Ferrier, qui est doctorante à l'université de Brest. Elle travaille sur l'esthétisation en photographie des infrastructures énergétiques, et qui, elle, est aussi une artiste textile. Donc elle va nous proposer des sculptures textiles, des kimonos, qui nous invitent à réfléchir sur comment le pétrole s'insinue jusque dans nos vêtements qui touchent notre peau au quotidien.
On pourra aussi vivre l'expo post-pétrole sur fond de musique. L'ensemble Sillage interprétera Two Four de John Cage en duo violon-accordéon à 14h le 14 mars à la Maison de la Fontaine.
Pour l'axe mathématique, je pense que je parlerai de l'exposition de Gabrielle Hervette, donc, que je mentionnais tout à l'heure. Donc Gabrielle, qui est une artiste plasticienne, qui a vécu en immersion dans notre laboratoire de maths pendant plusieurs semaines, qui a, comme elle le dit, arpenté des paysages mathématiques fabuleux, et qui nous restitue ces paysages à travers une exposition d'art contemporain dans la salle des abords, donc notre salle d'exposition qui se trouve à la Fac de Lettres. Pour l'axe data, il y a vraiment un moment fort qui va être le concert de l'Orchestre universitaire de Brest, un ciné-concert. Donc, c'est-à-dire que notre orchestre va créer une pièce, ce sera une première mondiale, donc une pièce composée par Yves Pignot, qui est un compositeur brestois. Et sur un grand écran derrière l'orchestre, l'Ifremer va projeter des images qu'ils ont captées dans les profondeurs des abysses. Et en fait, le compositeur Yves Pignot a vraiment travaillé avec les chercheuses et chercheurs de l'Ifremer, du laboratoire Géocéan, du laboratoire BIP, pour vraiment essayer de transcrire en musique les phénomènes géologiques et biologiques qu'on voit sur les images.
Il faut insister et rappeler un fait important. Le festival Ressac, même s'il est question de science, est particulièrement accessible. D'abord parce qu'il est inclusif.
On a vraiment travaillé l'accessibilité du festival. Donc le festival, tout est gratuit sauf un événement, mais sinon à 95% tout est gratuit. C'est ouvert à toutes et tous, ça s'adresse au grand public, aux étudiantes et étudiants du campus de l'université ou alors d'ailleurs, aux familles, aux scolaires, aux scientifiques, aux artistes. Et puis on a vraiment souhaité faire du festival un laboratoire de culture inclusive en travaillant en collaboration étroite avec l'équipe du projet Tous Égaux. Le projet Tous Égaux, c'est un projet qu'on est en train de déployer sur le campus de l'université de Brest et qui vise à renforcer l'accueil et l'inclusion des étudiantes et étudiants en situation de handicap. Donc, on va évidemment travailler sur la signalétique, on va travailler sur l'accessibilité des lieux, on aura des interprètes langage des signes sur certains événements. On va aussi former certains de nos bénévoles, médiatrices, médiateurs, à l'accueil de publics, à l'accueil des publics spécifiques. Et puis, on a aussi demandé à nos artistes de développer des œuvres tactiles et olfactives. Donc, l'idée, c'était que la dimension inclusive ne se limite pas à des aménagements périphériques, mais qu'elle vienne aussi investir les œuvres elles-mêmes. Et l'objectif derrière, c'est vraiment de tester des choses, de voir ce qui marche bien, de voir ce qui marche pas bien et de pérenniser les bonnes pratiques pour en faire un modèle reproductible, soit dans le cadre d'autres événements culturels à l'UBO, soit dans le cadre d'événements dans d'autres structures culturelles. En fait, on a des étudiantes et étudiants expérimentateurs au sein de l'UBO. Donc ça peut être des étudiantes et étudiants dyslexiques ou alors à mobilité réduite. Et donc c'est eux qui nous ont vraiment conseillé lorsqu'on a construit la programmation sur plein d'aspects. Après, notre idée vraiment, dès le départ, c'était de ne pas segmenter les publics, de ne pas avoir une exposition pour des personnes malvoyantes. Donc l'idée, c'était pas de segmenter les publics, mais plutôt de proposer des parcours sensoriels, des parcours émotionnels, dans lesquels on espère un maximum de personnes va pouvoir se retrouver. Donc par exemple, on a un parcours calme, on a un parcours dynamique au contraire, et puis on a aussi un parcours sensoriel qui va mettre plus l'accent sur certaines modalités sensorielles comme l'odorat le toucher.
Et le festival Ressac est accessible parce que c'est très varié.
Il y a tellement de propositions. En plus, il y a beaucoup de propositions qui sont des performances courtes. Il n'y a pas de risque, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque à venir essayer. Et puis, si ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas. Mais ça permet cette ouverture, cette curiosité, sans aucun risque, ni financier, ni de temporalité, permet de venir à la découverte, justement, de performances, de sujets, de thématiques qu'on n'imaginait peut-être pas nous intéresser ou qui nous semblaient justement très éloignés de nos préoccupations. C'est ça tout l'intérêt aussi. C'est-à-dire que, par exemple, la data, je suis quelqu'un qui ne m'intéresse pas du tout à ça. De venir voir des œuvres qui sont issues de ces thématiques-là, mais qui les abordent d'une autre manière, ça peut permettre un partage finalement avec des passionnés et avec des gens qui a priori ne se seraient pas intéressés à ces thématiques-là. Et c'est ce partage, ces échanges qui vont être possibles, c'est ça en fait qui est au cœur de nos préoccupations, rendre accessible, partager sur soit quelque chose d'intellectuel, sur soi quelque chose de sensoriel, mais d'être ensemble et de partager ensemble l'art et la science.
Je pense à l'exemple de l'exposition de Gabrielle Hervette, qui nous a fait des sculptures inspirées par les paysages mathématiques qu'elle a arpentés pendant sa résidence au sein du laboratoire de mathématiques. On peut vraiment avoir deux approches sur cette exposition. Soit on va visiter l'exposition et on a la possibilité de lire tous les cartels. Il y aura aussi des bornes avec des casques qui permettent d'écouter et d'en savoir plus sur vraiment les mathématiques qui sont derrière. Mais on peut aussi très bien ne pas lire, ne pas écouter et juste profiter vraiment dans l'émotion brute des sculptures de Gabriel qui sont des formes d'une beauté. Enfin, c'est vraiment très subtil, c'est très élégant et je pense qu'on peut vraiment avoir un plaisir esthétique sans forcément tout comprendre de ce qu'il y a derrière scientifiquement.
Le programme complet est sur le site internet de l'Université de Brest. Donc n'hésitez pas à aller à ce festival Ressac à Brest du 10 au 14 mars.